Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et pour Culture Média. Quelle phrase étrange, au menu Média et Culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, il sera beaucoup question d'empowerment en première heure et je l'ai dit, de musique dans la seconde. J'ajoute Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences. Il y avait la Coupe du Monde France-Australie, je ne connais pas le chiffre, mais je peux déjà parier que c'est en tête des audiences. Louise nous donnera le score exact. Notre infomédia avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, à l'initiative d'un documentaire qui décortique plusieurs années de lutte contre les violences faites aux femmes, du point de vue des femmes, mais également du point de vue des enfants de ces femmes. Un film glaçant et nécessaire. Nous invitons ensuite le producteur Mathieu Bayle. Il lance les Reines de la Mécanique, référence aux Reines du Shopping. Sauf que ces 8 femmes ne parlent pas chiffon, mais durite, vilebrequin et joint de culasse. Les femmes mécaniciennes représentent seulement 1% de la profession en France. Raison de plus pour les mettre en valeur. Nous serons aussi avec l'une d'entre elles, Morgane. Enfin, l'inclassable humoriste Gaspard Proust. Il a arrêté les chroniques télé et surtout le seul en scène. Le voici pour la première fois au théâtre, dans une pièce à sa mesure et à sa démesure, comme disent les critiques. Ça s'appelle « Demain, la revanche », aucun rapport avec la Coupe du Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Louise au sommaire de votre journal des médias.
Les suites de l'affaire Mediapart, qui est interdite de publier un article par la justice. On parle aussi dans ce journal des rapports des jeunes aux médias et à l'information. Quels médias privilégient-ils pour s'informer? À quels médias font-ils le plus confiance? Ce ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, quels sujets voudraient-ils voir davantage traités? On parle de tout ça. Des nouveautés aussi dans les règles de l'Eurovision. Et puis, en fin de journal, 3 infos télé sur des programmes bientôt diffusés. 3 mots-clés, Starac, Livre et Noël.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à part le foot.
Énorme surprise, c'est Arte qui est en tête. Non, pas
j'y
du tout. Évidemment que c'est TF1 avec son match France-Australie. 12 530 000 téléspectateurs hier soir devant la une. 48,1% de part d'audience. Alors, en nombre de téléspectateurs, c'est à peu près similaire au premier match des Bleus aussi en 2018, sauf que c'était un dimanche midi, mais c'était aussi contre l'Australie. Voilà, c'est à peu près le même nombre. À noter qu'il y a eu le MAG ensuite qui débriefait le match, puis le Late Show d'Alain Chabat, je vous le donne dans la foulée, ça augmente par rapport à lundi, 1 560 000 téléspectateurs. C'est pas non plus énorme quand on a 13 millions de personnes quasiment en première partie de soirée. Deuxième, c'est France 3 qui proposait une rediffusion. Toutes les chaînes hier proposaient des rediffusions. Oui. Avis de tempête, 2 890 000 téléspectateurs devant le film, 12,5% de part d'audience. Et puis troisième, évidemment, encore une rediffusion et encore un petit score pour France 2, 1 850 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
On fait un point sur les suites de l'affaire Mediapart dont on parlait hier, dont un article de Mediapart a été interdit de publication par la justice.
On a appris hier après-midi que Mediapart allait pouvoir tenter de faire annuler cette décision de justice, celle qui lui empêche de publier de nouvelles révélations sur les pratiques politiques du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot. Une audience va se tenir dans 2 jours, ce sera donc vendredi à 14h au tribunal judiciaire de Paris. C'est un espoir pour le site d'investigation qui est vent debout contre cette décision de justice qui a été prise vendredi dernier. Le site dénonce une censure préalable, du jamais vu, disent les journalistes qui n'ont pas pu exposer leurs arguments devant le tribunal. Ils ont simplement vu arriver un huissier à la rédaction qui les a donc informés de l'interdiction de publier l'article. C'est ce que nous expliquait hier l'auteur de l'article, Antoine Rouget, dans Culture Média.
Nous, on n'a aucune difficulté à répondre de nos enquêtes, y compris devant les tribunaux. Ça nous arrive très souvent. On estime que c'est une responsabilité qu'on a quand on publie des articles, ensuite de défendre la qualité de notre travail. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On n'a même pas eu la possibilité de se défendre, de faire valoir nos arguments. On n'a même pas été informé. On a été seulement informé de l'injonction qui nous est faite de ne pas publier. On n'a même pas pu se défendre sur le fond, en sachant que Gaël Perdriot explique que les informations que nous nous apprêtions à publier porterait atteinte à sa vie privée, ce qui n'est évidemment pas le cas. La vie privée de Gaël Perdriot ne nous intéresse pas, ce sont ses pratiques politiques qui nous intéressent et que l'on documente depuis la fin du mois d'août.
Et donc être interdit de publication sans avoir pu exposer ses arguments, ce sera une situation qui ne sera peut-être bientôt plus possible, car une proposition de loi a été déposée hier par une sénatrice centriste, Nathalie Goulet. Elle veut en fait compléter la loi sur la liberté de la presse avec une phrase, une publication publication ne peut être interdite qu'en application d'une décision judiciaire rendue contradictoirement, donc ça veut dire avec la chance, la possibilité pour les journalistes d'exposer leurs arguments, de défendre leur travail. Mediapart, qui est très soutenu depuis hier par des hommes et femmes politiques, par près d'une quarantaine de sociétés et d'organisations de journalistes aussi, par des avocats, des ONG, et Bruno Donnet reviendra sur ses réactions dans sa chronique à 9h44.
On change de sujet, mais là aussi il est question de liberté de la presse. C'est aujourd'hui que se tient l'audience du site d'information Reflet.
Oui, une audience devant la cour d'appel de Versailles, car le site a lui aussi eu interdiction de publier tout article qui aurait un lien avec le groupe Altice et son patron Patrick Drahi, publié à partir d'informations piratées par des hackers, et ça avait été mis à la disposition de tous. Reflet conteste cette décision et a d'ailleurs continué de publier des articles sur son site.
Dans l'actualité également, un sondage Ipsos, sondage qui permet d'en savoir un peu plus sur le rapport des jeunes aux médias, avec la réponse à une question: quels sont les médias utilisés par les jeunes pour s'informer?
On apprend que ce sont les chaînes de télévision qui sont plébiscitées par les jeunes entre 16 et 30 temps pour la moitié d'entre eux. Alors, petite précision, c'est tout format confondu. Ça veut dire que ce soit via la télévision, via les applications de ces chaînes traditionnelles ou même les comptes de ces chaînes sur les réseaux sociaux. Bon, viennent ensuite les chaînes d'information en continu, les grands journaux, puis la radio à égalité avec les comptes d'influenceurs de l'information, donc par exemple le youtubeur Hugo Décrypte. Les médias exclusivement en ligne suivent ensuite, puis la presse quotidienne régionale et enfin la presse spécialisée, par exemple le sport, l'Équipe notamment.
Et ça aussi c'est intéressant, on apprend également dans ce sondage Ipsos le niveau de confiance accordé à ces médias.
Oui, c'est intéressant à observer parce qu'il y a des petits paradoxes. Par exemple, c'est la radio qui arrive en tête. Ça veut dire que 61% des jeunes lui font confiance, mais je viens de vous le dire, ça n'est pas le média le plus privilégié par les jeunes. Les grands journaux arrivent devant, les chaînes de télé traditionnelles aussi, et même celles d'information en continu, alors que justement les jeunes leur font beaucoup moins confiance. 61 pour la radio, 39 pour les chaînes d'information en continu. Un type de média se distingue en fait, ce sont encore une fois les chaînes de télé traditionnelles, car elles sont à la fois privilégiées par les jeunes et elles font partie des médias les plus à qui les jeunes font le plus confiance, donc 59% d'entre eux. À noter la différence entre la confiance accordée à une chaîne traditionnelle, c'est-à-dire TF1, France 2, M6, et à une chaîne d'information en continu, donc BFM TV, CNews, LCI, elle est de 20 points de différence. 59% des jeunes font confiance aux chaînes traditionnelles contre 39% seulement pour les chaînes d'information en continu.
Et il est également question dans ce sondage des thèmes que les jeunes voudraient voir davantage traités dans ces médias.
Et c'est l'environnement, l'écologie qui arrive en tête devant les sujets sociaux, catégorie qui englobe pourtant plusieurs thématiques, le chômage, pouvoir d'achat, inégalité, mais c'est bien l'écologie qui arrive en premier. Et puis enfin, troisième, c'est le thème de la santé.
Un mot de l'Eurovision, le comité d'organisation a annoncé des nouveautés pour 2023.
Oui, le vote ne sera plus réservé aux pays qui participent à la compétition. Désormais, le monde entier a le droit de voter par Internet. Mais oui, ça change les règles. Et puis, il y a autre chose qui change. C'est pour les demi-finales. Seul le public choisira désormais les pays qui iront en finale. C'est une grande nouveauté, car depuis 13 ans, c'est une décision qui revenait au public et à des jurys de professionnels de l'industrie musicale. Bon, pour la finale, ça ne change pas. L'avis des jurys restera pris en compte pour désigner le gagnant. Il faut quand même y voir une réponse à une polémique lors de la dernière édition pour les demi-finales. Les jurys de certains pays avaient été soupçonnés de s'être accordés plus de points pour pouvoir aller en finale.
Mais ça veut dire que c'est terminé. Espagne, 3 points.
Non, ça c'est pendant la finale. Ça ne change pas pour la finale. En fait, la France est automatiquement qualifiée pour la finale, il faut savoir, parce qu'on fait partie des pays qui contribuent le plus. Donc on paye, on va en finale. Ça se passe comme ça. Les autres pays doivent passer par des demi-finales. Et c'est pour ces demi-finales que la règle change.
On termine avec des infos télé. Chaque mardi, les chaînes annoncent les programmes qui seront diffusés 3 semaines plus tard. Qu'avez-vous repéré, Louise ?
TF1 va continuer de surfer sur le succès de sa nouvelle saison de la Star Academy, en tout cas tenter de le faire, en proposant un documentaire qui sera diffusé le 10 décembre, donc 2 semaines après la finale. Ce sera à la fois une manière de retracer toute l'aventure, les 6 semaines des candidates et des candidats. Mais ce n'est pas tout. TF1 promet de filmer les premiers jours de la nouvelle vie du ou de la gagnante de la Star Academy, d'où la diffusion du documentaire 2 semaines après la finale.
Deuxième information, Michel Field de retour devant les caméras.
Oui, le temps d'une soirée, le directeur de la culture chez France Télévisions, à France Télévisions, va co-animer une émission de France 2, le livre favori des Français. Il sera en duo avec la journaliste Camille Diao qui travaille pour l'émission C'est ce soir sur France 5. Ce sera un prime durant lequel on va découvrir les 25 livres favoris des Français, dont le livre préféré. Alors pour cela, là, en fait, l'opération a démarré il y a plusieurs mois. France Télévisions avait déjà fait deux étapes. Dans un premier temps, il fallait renseigner ses trois livres préférés sur le site de France Télévisions, sans liste imposée, hein, c'était totalement libre. Puis France Télévisions a regardé quels étaient les ouvrages les plus cités. On est sorti une liste de 50 livres qui ont à nouveau été soumis au vote, ces livres. Et c'est justement le résultat de ce vote qui va être révélé aux téléspectateurs lors de cette soirée. Soirée qui aura lieu le 15 décembre sur France 2.
Le livre de l'année ou ça peut être Flaubert,
ou
Proust?
C'est tout genre confondu, toute époque confondue. On nous promet d'ailleurs qu'il y aura tout genre confondu. Donc ça peut être des mangas, des polars, des pièces de théâtre. Il y a un vrai suspense.
C'est Oui Oui qui va gagner. Et puis dernière info.
Sans doute le livre le plus lu d'ailleurs.
Non, non. Le 12 décembre, je redeviens sérieux, ce sont les retrouvailles à la télévision de deux acteurs de Desperate Housewives.
Terry Hatcher et James Danton, ils jouaient un couple mythique de la série, Suzanne et Mike. Ils jouent à nouveau ensemble, mais cette fois dans un téléfilm de Noël. Il n'en fallait pas plus à TF1 pour décider de le diffuser, non pas en début d'après-midi comme les autres, mais en prime un lundi soir.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver quand on veut, pas forcément lundi soir. C'est gratuit, c'est sur Europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, nous serons avec la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. C'est Marlène Schiappa pour parler de la lutte contre les violences conjugales à l'occasion d'un documentaire initié en quelques sort par elle, qui sera diffusée sur C8 à ce sujet. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Chaque année en France, chiffre tragique, 200 000 femmes sont agressées par leur compagnon, si on peut appeler ça un compagnon. Pire, une femme meurt sous ses coups tous les trois jours. Il y a bien sûr les violences physiques, mais également plus pernicieuses, les violences psychologiques ou financières. Et celle qui incarne la lutte contre ces violences depuis des années, c'est Marlène Schiappa. Lorsqu'elle était secrétaire d'État chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est là qu'elle a mis en place en fin d'année 2019 le Grenelle contre les violences conjugales. Et aujourd'hui, de son nouveau poste de secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, elle travaille toujours à ce sujet. C'est à elle que l'on doit le numéro d'urgence, le 3919, également la lutte incessante contre les violences conjugales. Après-demain, un documentaire intitulé « Femmes battues, violences au cœur des foyers » sera diffusé en prime time sur C8 avec une intervenante spéciale, justement Marlène Schiappa. Elle est au micro de Culture Média ce matin pour nous parler de ce film, on peut dire, du combat de sa vie. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Secrétaire d'État, donc je l'ai dit, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, c'est votre nouveau titre. Quel est le point de départ de ce documentaire qui sera diffusé vendredi? C'est vous qui l'avez initié, c'est bien ça?
Oui, absolument. Le point de départ, c'est comme vous le savez, moi depuis des années, je me bats pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences conjugales. J'ai fait des lois, j'ai fait des livres et j'observe qu'à la télévision, il y avait assez peu de documentaires et particulièrement le jour du 25 novembre. Or, le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà, tout simplement, j'en ai parlé avec Maxime Saada du groupe Canal+, en lui demandant si le groupe pouvait s'engager. Et c'est ce qui a été fait. Donc ça donne ce documentaire qui est réalisé par Jean-Michel Gomez et qui sera diffusé le vendredi 25 novembre en prime time sur C8.
Vous avez voulu qu'il soit traité comment, ce documentaire? Vous dites qu'il y en a eu peu, il y en a eu quand même. Et moi, je l'ai trouvé très très fort parce que différent, avec des témoignages qu'on n'entend jamais, des sons qu'on n'entend jamais.
D'abord, c'est rare de les mettre en prime time parce que ce sont des sujets violents. Là, le documentaire, il est très cru. Nous, on est allé le regarder récemment dans sa version définitive avec le réalisateur, avec la production, avec H2O, les équipes, les monteurs, etc. Et honnêtement, même nous qui y avons participé, on est resté le souffle coupé à plusieurs moments parce que ça montre de manière très crue et très vraie, en fait, la réalité des violences dans le couple, qui sont des violences qui se passent à la maison. Normalement, chez vous, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Mais pour trop de femmes, chez soi, c'est l'endroit où elles sont en insécurité, justement.
Exemple de document, on est au centre de régulation du 17. Les policiers reçoivent des centaines d'appels d'urgence, comme celui-ci, glaçant, on écoute.
Police secours, bonsoir. Il y a mon copain, il vient de me taper dessus, il est parti, il a pris une clé. Et là, il vient de me niquer la casse. Je sais pas quoi faire, madame. Ça fait un an, là, et j'en peux plus. Là.
Mon mari, il m'a frappé. Et il attrape un coton. Si ils savent, j'ai appelé la police, elle va me tuer aujourd'hui. Elle va couper ma tête aujourd'hui, je sais bien.
S'il vous plaît, venez, mon mari, comment t'as fait un flot pour...
Et on sent l'effroi dans la gorge de ces femmes.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, c'était important pour nous de montrer les choses telles qu'elles sont. Parce que parfois, on parle des violences dans le couple de manière un peu conceptuelle. Il y a une réalité derrière. Donc, il y a aussi des documents vidéo, audio, que des victimes de violences conjugales ont bien voulu partager. La caméra a été posée dans une association auprès de femmes pour montrer le travail des associations, mais aussi auprès des forces de l'ordre. Ce qu'on entend là, nous, on l'entend une minute et on trouve que c'est glaçant. Les forces de l'ordre entendent ça tous les jours. Il y a 400 000 interventions des forces de l'ordre chaque année pour sauver des femmes et des enfants de violences intrafamiliales. L'idée, c'est aussi de rétablir un peu la vérité de cet engagement de tous ceux, forces de l'ordre, associations, qui sont en première ligne pour les aider.
Il y a aussi des solutions. Une plateforme de chat inédite a été créée en 2018. Les gendarmes sont répartis sur 2 sites. Ils ne sont pas moins de 40 gendarmes. C'est vous qui êtes à l'origine de cette plateforme. Racontez-nous comment ça fonctionne maintenant.
Oui, c'est le gouvernement qui l'a lancé. Et l'idée, c'est que en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez des policiers et des gendarmes qui vous répondent par chat avec un ordinateur. Ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. On peut en sortir d'un simple clic et ça n'apparaît pas sur l'historique. Il y a 20% de signalements qui sont faits par des mineurs. Et en fait, quand vous ne vous sentez pas encore prêt ou apte à aller dans un commissariat pour déposer plainte, vous pouvez déjà saisir la police, soit pour préparer votre dépôt de plainte et prendre un rendez-vous, soit simplement pour parler de ce que vous avez vécu, ou encore pour signaler des faits. La dernière fois que je suis allée les voir pour le documentaire, en direct, on a eu des signalements de faits de violence conjugale d'un homme qui frappait sa compagne en pleine rue. Et donc c'est un témoin qui a saisi la police et qui a permis de venir la protéger.
Redites l'adresse.
C'est arrêtonslesviolences.gouv.fr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il y a aussi un témoignage glaçant, là je saute un petit peu, c'est à la fin du film. Il y a cette femme qui raconte être partie vivre chez ses parents avec ses enfants parce que son ex-conjoint, qui d'abord s'était livré à des violences conjugales, a essayé de mettre le feu à la maison, de la faire brûler, de l'immoler par le feu. Ce qui est dingue, c'est que l'homme est filmé en train de mettre le feu à la palissade de la maison. On le reconnaît distinctement et pourtant, il n'est pas arrêté. Je continue à raconter ce qui se passe. Delep allait vivre chez ses parents avec ses enfants à elle. Les enfants sont déscolarisés parce que le type appelle tout le temps, il les surveille. Comment se fait-il qu'il ne soit pas arrêté? Quand on voit ça, les bras nous en tombent.
Mais c'est ce qu'on a voulu montrer, en fait. C'est un documentaire qui montre la réalité. Donc moi, ce n'est pas parce que je l'ai initié que j'ai demandé au réalisateur d'édulcorer la réalité. La réalité, elle est celle-ci. Il y a des délais de la justice qui sont très longs. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ils travaillent en faisant en sorte de mettre les plaintes en haut de la pile, en avançant. La ministre aujourd'hui, Isabelle Rome, qui était magistrate auparavant, travaille aussi sur ce sujet. Mais les délais restent très long. Et effectivement, nous, on a voulu montrer, et je remercie cette dame, parce qu'elle a confié au réalisateur le film du compagnon qui est en train de tâcher de mettre le feu. Les enfants aussi s'expriment en disant comment ça les impacte. Eux, effectivement, ils vivent dans la peur permanente. Et d'ailleurs, on voit aussi le père de cette dame dans le documentaire. Et ça nous montre comment les violences conjugales atteignent vraiment toute la famille et pas uniquement la femme qui en est victime directement.
Oui, puisqu'on entend l'enfant qui raconte la manière qu'il a de répondre à son père au téléphone, qui appelle en numéro masqué, il répond sur le portable de sa maman. Je sais qu'on est dans un état de droit, mais il est absolument impossible d'accélérer les procédures judiciaires. C'est-à-dire que si ça dure des semaines, des mois, peut-être des années, cette famille va vivre sous cette emprise sans rien pouvoir faire.
Si, aujourd'hui, on a même créé des dispositifs dits de pré-sententiel, c'est-à-dire avant même la justice, dès le dépôt de plainte. Donc aujourd'hui, quand on dépose plainte, ça nous ouvre immédiatement des dispositifs et des droits. Un, la saisie des armes. Ça veut dire quand vous allez déposer plainte et vous déclarez que votre conjoint a un fusil de chasse, une arme, etc., elle est perquisitionnée, saisie immédiatement. Ensuite, vous avez les ordonnances de protection et les bracelets anti-rapprochement qui ont été créés en France depuis le Grenelle des violences conjugales, sur l'inspiration de l'Espagne. Donc il y a des dispositifs de protection qui existent. Après, là, ce qui a été montré, c'est une affaire encore en cours, donc je ne peux pas m'exprimer sur cette affaire en particulier, mais il y a aujourd'hui pléthore de dispositifs, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce documentaire, c'est pour mieux les faire connaître. Moi, j'ai reçu trop de femmes qui me disaient « je ne sais pas où appeler, je ne sais pas qui peut m'aider », alors qu'on a l'impression de mettre en place plein de lois et plein de dispositifs.
Il y a également d'autres types de violences que peut subir une femme, les violences psychologiques, également économiques. On marque une pause, on continue de parler de ce documentaire avec la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Culture Média continue, à tout de suite.
Claire. 9h-11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Journal.
En compagnie de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, le grand combat de sa vie, ce sont les femmes battues. Et justement, elle est à l'origine, à l'initiative d'un doc qui passe après-demain en prime time sur C8, « Femmes battues, violences au cœur des foyers ». On a parlé des types de violences que peut subir une femme, la violence physique, mais il y a également la violence psychologique, la violence économique.
Oui, absolument. Il y a différents types de violences. L'image qu'on se fait de la femme victime de violences conjugales, c'est les bleus sur le visage, les coups, etc. Bien sûr, c'est la plus grande majorité de ces cas. Il y a aussi des violences psychologiques. On a fait rentrer la notion d'emprise, par exemple, dans la loi avec le Grenelle des violences conjugales. C'est le fait de menacer, de dénigrer, de couper une personne de son entourage, lui dire « je veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison ». Et la violence économique, c'est le fait, par exemple, de lui prendre sa carte bleue, de l'empêcher d'avoir des moyens de paiement, de contrôler ce qu'elle dépense, voire de réquisitionner son salaire. Comme c'est fait, je rappelle que c'est illégal, hein, évidemment.
Oui, mais c'est récent, je l'ai appris en voyant le doc.
C'est récent, ouais, absolument.
Autrefois, en fait, un homme avait le droit de demander à sa femme de faire virer son salaire sur son compte à lui.
En fait, il n'y avait pas de loi explicite en termes de droit bancaire sur le droit à disposer d'un compte et de recevoir son salaire sur ce compte-là. Le salaire, il doit être viré sur un compte bancaire, mais c'était assez flou. Donc là, oui, on l'a clarifié. Et donc, tout ça pour dire que ces violences économiques, elles existent, notamment pendant le confinement. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui me disaient que leur conjoint violent les empêchait de sortir le temps qu'elles avaient le droit de sortir pendant le confinement, leur prenait les papiers ou les stylos de la maison pour pas qu'elles puissent remplir d'attestations et sortir. En fait, il y a une inventivité dans la méchanceté et dans la cruauté, si je puis dire, qui est assez glaçante. Et dès lors que votre compagnon ou votre mari vous dit « dénigre toutes vos amies, dénigre votre famille, veut pas que vous sortiez travailler, vous devez rendre des comptes sur où vous êtes à l'instant T, vous géolocalise, etc. », on peut commencer à se dire qu'il y a toutes les conditions de l'emprise qui sont remplies.
Il y a beaucoup de féminicides qui ont lieu dans un contexte de rupture. Pour quelles raisons ?
Bah, en fait, c'est un process psychologique assez particulier. L'homme violent considère qu'il préfère que sa femme soit morte plutôt qu'autonome. Il ne la considère pas comme une personne à part entière. Pour lui, c'est un objet, c'est son jouet, c'est une prolongation de lui-même, c'est une entité du couple. Et donc, dès lors qu'elle manifeste un peu de velléité, d'autonomie, de penser par elle-même, de voir d'autres gens, de sortir toute seule, voir la rupture, eh bien là, effectivement, on voit dans les études faites par le ministère de l'Intérieur sur les morts violentes au sein du couple que le contexte de rupture, de séparation, est un élément déclencheur, souvent, hélas, des féminicides.
Dans le documentaire, on découvre également les UMJ, les unités médico-judiciaires. Quel est leur rôle ?
Ben, c'est très intéressant cette partie du documentaire parce qu'on voit justement le moment où les femmes viennent dire à un médecin pour faire constater ce qu'elles ont vécu, la réalité dans le détail de ce qu'elles ont vécu. Et c'est l'UMJ qui va déterminer, par exemple, le jour d'ITT, etc., dans le but d'une action en justice. Et là aussi, c'est glaçant parce qu'on aborde à ce moment-là la question des viols conjugaux, qui est un énorme tabou. Les femmes ne disent pas elles-mêmes « mon petit copain m'a violée ». Elles disent « j'étais pas vraiment d'accord ». Il a énormément insisté, j'ai dit non mais il n'en a pas tenu compte. Et le mot de viol, qui est la qualification judiciaire, n'apparaît pas dans leur bouche. Il faut que ce soit le médecin qui dise « mais attendez, vous m'expliquez qui vous a plaqué au sol lors d'une dispute, qui vous a forcé, vous avez pleuré, vous avez dit non, etc. C'est un viol ». Et là, les femmes verbalisent et disent « ah oui, effectivement, c'est un viol ». Et on en parle vraiment très peu.
Il y en a une qui dit oui, c'est arrivé une fois, et elle sourit. Et elle sourit pas parce qu'elle trouve ça drôle. Elle sourit pour qu'on passe à la question suivante, parce qu'on sent que c'est très...
Mais d'ailleurs,
très...
je le dis dans le documentaire, parce qu'à plusieurs reprises, des femmes ou des enfants rigolent ou sourient en racontant ce qui leur est arrivé. Et je veux vraiment pas qu'on pense que c'est parce qu'elles le prennent à la dérision ou parce que c'est léger. C'est un phénomène de défense, c'est un mécanisme de survie de sourire quand on raconte quelque chose de très traumatisant. C'est un syndrome du stress post-traumatique que d'essayer, un, de se détacher et deux, de prendre du recul par rapport à ça et d'afficher un visage qui sourit quand on raconte les choses les plus terribles.
Je voudrais qu'on parle des enfants. C'est souvent les grands oubliés des violences conjugales.
Ouais.
Dans quelle mesure ils sont des victimes collatérales, si j'ose dire ?
Ils sont des victimes des violences conjugales. On a, dans le cadre de la loi, avec notamment une députée qui s'appelle Alexandra Louis, qui est maintenant déléguée interministérielle à la protection des victimes, on a travaillé pour faire en sorte qu'un enfant témoin de violences conjugales est considéré comme une victime, parce que c'est désormais une circonstance aggravante des violences conjugales. Et dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, on a travaillé sur la déchéance de l'autorité parentale. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai reçu, par exemple, le père de Julie Douib, qui a été tué par son conjoint, qui m'a expliqué que le conjoint, donc le meurtrier, depuis la prison, avait conservé l'autorité parentale sur les enfants gardés par les grands-parents. Vous êtes un monsieur ou une dame de 65 ans, vous récupérez la garde de vos petits-enfants parce que votre fille a été assassinée. Et en plus, vous n'avez pas le droit de prendre les décisions qui concernent leur éducation. C'était ubuesque et inhumain. Et donc maintenant, on a changé la loi par rapport à ça.
D'un mot, parce que je voudrais qu'on passe un extrait d'une petite fille, un témoignage vraiment très saisissant. Que sont les maisons de Léa ?
Alors, c'est une association qui fait partie du réseau Solidarité Femmes, qui a créé, qui administre le numéro du 3919. Et la maison qu'on montre dans l'Essonne, dans le documentaire, elle permet aux femmes d'être accueillies, de parler, d'être hébergées, de se reconstruire et d'être prises en charge. Et c'est extrêmement important. Je veux saluer à travers elle toutes les associations qui mènent ce travail de reconstruction pour les femmes.
Les femmes viennent parler, elles viennent parfois avec leurs enfants. Et puis, dans ces maisons de Léa, eh bien les animatrices qui sont là, les professionnels autour d'ateliers créatifs font parler les enfants, les éducatrices demandent aux enfants de se confier, de raconter, et parfois, au détour d'un récit qui pourrait être anodin, on apprend des choses terribles. Exemple.
Moi, j'ai plus de père, moi.
Pourquoi t'as plus de père ?
Parce que mon père, il arrête pas de faire des bêtises, maintenant je ne vais plus avec mon père.
Ton père, il faisait quoi comme bêtise ?
Il a touché ça.
Il a touché tes fesses ?
Oui.
Ouais, d'accord.
Et même, il a léché mes fesses.
À qui ?
Du coup, on va en parler plus tard. Et du coup, ce que ta maman, elle t'a protégée, c'est ça ?
Oui. C'est mon père qui m'a fait ça.
Bah ouais. Mais tu sais, parfois, quand toi, tu rigoles comme ça, et ben, c'est aussi parce qu'à l'intérieur, on peut ressentir autre chose.
Exemple glaçant.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. En fait, elle est dans un atelier avec l'association et l'association prend en charge la maman pour des violences conjugales. Et à ce moment-là, elles font un atelier créatif et c'est à ce moment-là que la petite fille parle. Et je trouve que c'est vraiment important parce qu'on a beaucoup parlé de libération de la parole ces dernières années. Moi, j'aime pas trop cette expression parce que je trouve que les femmes ont toujours parlé depuis des générations. Ce qu'elles ont vécu, juste, on les écoutait pas. Donc, il y a une libération de l'écoute aujourd'hui. Mais la parole d'un enfant, il faut, et d'ailleurs de quelques victimes de violences que ce soit, femmes ou hommes d'ailleurs, il faut aller la chercher. Et donc là, les associations sont des professionnels, des travailleuses sociales qui organisent des ateliers créatifs pour mettre les enfants en confiance et qu'ils puissent se sentir libres de raconter des choses. Cette petite fille ne l'avait jamais raconté avant à l'association.
Ce film « Femmes battues, violence au cœur des foyers » serait vendredi après-demain sur C8. C'est produit par H2O.
C'est produit par H2O. Je remercie Cyril Hanouna qui a produit ce documentaire et Maxime Saada qui s'est beaucoup mobilisé pour faire en sorte qu'il existe.
Oui, parce qu'on parlait de projet entre Cyril Hanouna, H2O et vous. En voici un exemple.
Absolument.
Donc on a la première réponse. Je précise que demain sur Virgin Radio, vous serez l'invité de l'émission de Guillaume Janton de 20h à 23h, toujours dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Programme de cette émission spéciale ?
C'est une libre antenne de 3h. Je serai avec une avocate, Maître Isabelle Steyer, et animée par Guillaume Janton. Et on prend les auditeurs, les auditrices en direct pour apporter des réponses et essayer de les écouter et de mieux faire connaître les dispositifs, les actions des associations et leurs droits. Donc c'est une libre antenne sur Virgin Radio de 20h à 23h, le 24 et le 25 sur C8, le documentaire.
21h20 sur C8. Merci beaucoup Marlène Schiappa.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le documentaire « Femmes battues, violence au cœur des foyers » donc diffusé sur C8 vendredi après-demain et évidemment à voir en replay. Merci d'avoir été avec
nous.
Merci à vous. Culture Média continue. On va continuer à parler des femmes et d'empowerment. Ça sera beaucoup plus joyeux. Les reines de la mécanique. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a seulement 1% de femmes mécaniciennes en France. Eh bien, RMC leur consacre une émission. Nous sommes avec le producteur Mathieu Bayle et une participante. Elle s'appelle Morgane. C'est la reine du covering. Et puis, il y a également Bruno Donnet qui arrive pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le producteur Mathieu Bayle et Morgane, participante de l'émission Les Reines de la Mécanique, dont on va parler juste après les télescopages, c'est le cas de le dire, de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Pas de tôle froissée tous les jours Bruno. Vous observez ici les pratiques médiatiques, mais ce matin, c'est une procédure judiciaire qui a suscité votre intérêt, celle qui empêche le site Mediapart de publier une information.
Oui, en fait, je dois vous dire Philippe que je suis totalement abasourdi, rien qu'en vous entendant prononcer cette phrase.
une procédure judiciaire empêche un organe de presse de publier une information. En d'autres termes, c'est la justice française qui interdit aujourd'hui à des journalistes qui n'ont même pas pu se défendre et être entendus de nous livrer le fruit de leur travail. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors je rappelle brièvement les faits, hein. Vous en avez parlé ici même dès hier matin dans le journal des médias de Louise Bernard. Le tribunal judiciaire de Paris a interdit lundi, dans ce qu'on appelle une procédure d'urgence, à Mediapart de publier de nouvelles informations au sujet des pratiques politiques du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il y a tout juste 2 mois, Mediapart avait déjà diffusé des informations retentissantes à propos des comportements de cet élu. On se souvient notamment du chantage à la sextape sur l'un de ses adjoints et des enregistrements terrifiants que le site d'information avait mis en ligne. Mais cette fois-ci, Mediapart s'apprêtait à aller un cran plus loin et à faire de nouvelles révélations, comme le journaliste Anton Rouget qui a réalisé l'enquête l'a confié ici même, hier matin, au téléphone de Louise Bernard.
On va révéler, on espère pouvoir le faire rapidement, des nouvelles pratiques, cette fois dont a été victime Laurent Wauquiez, le président Les Républicains, du même parti que Gaël Perdriau, et qui lui aussi a été victime de pratiques politiques assez odieuses.
Le problème, c'est donc que l'avocat du maire de Saint-Étienne a réussi à faire interdire la publication de ces nouvelles informations. En effet, Mediapart est aujourd'hui menacé par la justice d'une astreinte de 10 000 euros par extrait publié. Alors c'est grave, Philippe, et c'est surtout absolument sans précédent. Le patron de Mediapart, Edoui Plenel, l'a publiquement dit avant-hier.
C'est du jamais vu de mémoire de journaliste et de mémoire de juriste.
Bon, il était dans son rôle et ça n'a surpris personne. Mais depuis hier, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer cette décision judiciaire totalement inique. Éric Morin, qui est avocat et spécialiste du droit de la presse, l'a fait hier soir sur l'antenne de France 5.
Lorsqu'un juge doit venir dire si des propos n'auraient pas dû être publiés, il le dit toujours après, mais jamais préalablement.
En expliquant que le fait de publier une information n'avait jamais été répréhensible.
On doit pouvoir publier, puis ensuite, éventuellement, répondre de ses actes.
Et preuve de l'importance de cette affaire, hier toujours, la sénatrice Nathalie Goulet, qui est élue sous bannière UDI dans l'Orne, s'est elle aussi saisie de ce sujet en déposant illico presto un projet de loi pour empêcher ce type de comportement.
Une procédure non contradictoire qui vient intervenir en matière de presse viole les principes fondamentaux de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Alors la liberté de la presse est une liberté constitutionnelle et on ne peut pas y porter atteinte.
Voilà, la liberté de la presse est en effet inscrite noir sur blanc dans notre constitution. Donc, un journaliste doit pouvoir publier une information, y compris si elle est fausse, puis répondre éventuellement devant les tribunaux après publication et être condamné le cas échéant s'il est démontré qu'il a mal fait son boulot. Ce principe, c'est la loi du 29 juillet 1981, celle qui a instauré en France le droit à l'information qui le garantit, et il n'avait jusqu'à lundi encore jamais été bafoué dans de telles proportions. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. En 141 ans, c'est la toute première fois que la justice piétine ainsi la liberté d'expression en ordonnant à un organe de presse qui n'a même pas été entendu par un juge de bien fermer sa gueule. C'est inquiétant, tellement inquiétant que les sociétés de journalistes de nombreux grands médias ont fait paraître hier dans les colonnes du Monde une tribune pour dénoncer un fait de censure invraisemblable, inquiétant, au point que le journal Libération et que le site d'information en ligne Les Jours ont suggéré que puisque la justice vient de décider que Mediapart pourrait être condamné s'il publiait ses révélations, mais qu'elle n'a rien ordonné aux autres médias, eh bien Libé et Les Jours sont d'accord pour les publier. Très astucieuse idée qui pourrait peut-être être reprise par d'autres organes de presse, par tous ceux qui viennent de signer une tribune dans Le Monde, par exemple.
Je n'en reviens pas, Bruno Donnet, la première fois en 141 ans. Merci beaucoup, à demain Bruno.
À demain.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Bayle.
Bonjour
vous
Philippe.
Vous êtes producteur, directeur des programmes d'Endemol France, qui produit notamment Les 12 coups de midi, Miss France, et sur TF1, Les enfants de la télé, France 2, Patron Incognito, M6, ou LOL, tu ris, tu perds, sur Amazon. Votre actu dans un tout autre genre. Il n'y a que des filles, mais ce n'est pas un concours de Miss. Les reines de la mécanique, c'est ce soir à 21h10 sur RMC Découverte. C'est le mercredi avec nous. Morgane, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Saint-Priest, à côté de Lyon, avec un associé. Vous avez ouvert en 2019, il y a 3 ans, un atelier de covering. Qu'est-ce que le covering, me demandait Bruno Donnet? Alors, et moi aussi, avant de voir l'émission, je ne savais pas ce que c'était.
Quel menteur.
Moi non plus, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était, donc ça va. Alors, le covering, c'est l'action de revêtir une carrosserie à l'aide d'un film adhésif pour changer l'aspect, la couleur.
L'art de transformer une voiture sans y toucher. Il y a 6 épisodes dans cette émission, 8 femmes. Les autres professions, c'est mécanicien auto, moto, poids lourd, spécialiste en 4x4, dépanneuse en pneumatique XXL, les pneus des roues et des camions. On va entendre la bande-annonce.
Elles ont troqué le sac à main contre une boîte à outils.
J'adore les culasses.
Les couvertures de magazines pour les covers de bolides.
Faut que je tire bien mon film pour pas qu'il y ait de décollement.
Le maquillage pour le dépannage.
Je vais trouver les solutions, même si je galère, je vais y arriver.
Partez à la découverte de ces femmes qui n'ont pas peur de conjuguer vernis et cambouis.
On est au 21e siècle et en fait, une femme qui fait un métier d'homme, ça choque encore.
Vernis et cambouis, Mathieu Bay, les reines de la mécanique, ça fait référence aux reines du shopping. Et vous le dites en début d'épisode, il y a seulement 1% de mécaniciennes en France, d'où l'idée de ce programme ?
Exactement. Nous, l'idée, c'était de proposer, d'abord c'est une création, donc on en est très fiers chez Endemol. Et l'idée, c'était de présenter voilà, un programme qui est en adhésion, je dirais, en adéquation avec les thématiques de RMC. Beaucoup de programmes autour des moteurs, autour des voitures. Mais on voulait vraiment proposer un angle différent et nouveau avec le travail des femmes. Mmh. Et pour nous, c'était très important parce qu'on se rend compte que elles sont obligées de prouver beaucoup plus que les hommes à l'intérieur de ce métier. Oui, elles sont très peu. Il y a plein d'anecdotes et Morgane pourra en raconter quelques-unes. Quand les clients rentrent dans les garages, en général, ils s'adressent aux femmes comme si c'était les secrétaires des garages. Mmh. Alors qu'en fait, aujourd'hui, elles sont auto-entrepreneuses et elles gèrent elles-mêmes le boulot.
Puisqu'on en parlait, je voudrais qu'on entende tout de suite l'extrait avec Morgane. À la base, vous l'avez dit, vous n'êtes pas garagiste du tout. Vous avez fait des études de marketing. Et quand vous êtes arrivé dans ce job, quand vous êtes arrivé dans le garage, vous avez beaucoup misé, Morgane, dans la communication et les réseaux.
J'ai vraiment tout donné sur cette communication parce que les clients, quand ils arrivaient dans le centre, ils allaient directement vers Kevin. Et vraiment, en tant que femme, dans ce milieu, on est vraiment invisible. Même si on a beau travailler sur une voiture ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas nous considérer.
Vraiment à ce point ? Les gens passaient devant vous dans le garage sans vous parler.
Oui, vraiment. Mais comme je dis souvent, même le corps, on le sent à travers le corps qu'il est dirigé vers les hommes. Quoi.
C'est pour cette raison que vous avez accepté de participer à l'émission, parce qu'après, je vous demandais comment vous êtes rencontrés les uns les autres.
Oui, tout à fait. Je pense que ça peut vraiment être le moyen d'envoyer un message différent et justement d'apporter des représentations féminines sur ce métier.
Alors, il faut dire que vous êtes très présente, mais d'autres aussi sont très présentes sur les réseaux sociaux. Comment avez-vous opéré le casting, Mathieu Bayle ?
Ben, il a été particulièrement compliqué parce que, comme vous le dites, c'est 1% de la population des mécaniciens. Donc, en fait, il y a peu de monde. Mmh. Mais en fait, on a été... Voilà, on s'est renseigné chez des concessionnaires, on s'est renseigné dans les écoles. Beaucoup de femmes sont en apprentissage, donc ça veut dire que les choses changent et ça, c'est super. Ah. Mais aujourd'hui, des professionnels qui sont en exercice, il n'y en a pas tant que ça. Et en effet, on est aussi passé par les réseaux. Morgane, on l'a évidemment trouvé par les réseaux. Donc ça a été un mélange de grandes structures dans lesquelles on est allé chercher et des réseaux pour trouver les gens.
Morgane, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, sur lesquels et combien de followers ensuite ?
Sur TikTok, je suis à peu près à 500 000 followers et Instagram 38 000.
Qui regarde vos vidéos ?
Alors très concrètement, à travers les statistiques, ce sont des hommes entre 25 et 40 ans.
Mais est-ce que ce sont des gens qui aiment les voitures spécialement parce que vous faites des danses, parfois les vidéos sont très sexy. Il faut dire aussi que ce n'est pas des Lada et des Twingo. Dans votre garage, il y a des Ferrari, des Lamborghini, des BM, des Audi, je vais en citer une dernière pour avoir de problème avec l'Arcom, des Mercedes et des très très beaux modèles. Ça intéresse qui ?
Ça intéresse donc, je dirais, à 80% des hommes et de plus en plus de femmes, justement, qui arrivent à se dire bah, finalement, c'est possible.
J'ai très très mal posé ma question. Est-ce que ça intéresse des hommes qui aiment voir une fille ou est-ce que ça intéresse des hommes qui ont envie de faire refaire la carrosserie de leur Lamborghini ?
Les deux mélangés, parce qu'on a vraiment des demandes, des devis clients qui se font grâce aux réseaux sociaux.
Ouais. D'autres filles ont été contactées comme ça par les réseaux sociaux. Qui, par exemple, à qui pensez-vous ?
Alors pour le coup, c'est vraiment Morgane qu'on a spoté très vite via les réseaux. Après, elles ont toutes des activités, mais c'est plus mineur. C'est vraiment Morgane qui était sur les réseaux. Je reviens juste sur ce que disait Morgane, qui est très intéressante. C'est que quand on regarde un peu la structure d'audience de RMC, suite à la diffusion la semaine dernière, on se rend compte en effet qu'on fait le plein chez les hommes, qui est le cœur de cible de RMC. Sous-entendu, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une adéquation sur les métiers et sur les thématiques qui font qu'aujourd'hui, finalement, femmes ou hommes, les programmes plaisent parce que la thématique plaît.
Je souris parce que quand on fait une émission de voiture et qu'on dit faire le plein, je me dis mais pourquoi il me parle du plein ? Ça y est, c'est fini, les problèmes de l'essence, c'est terminé. Il faut dire aussi des choses et vous battez en brèche des idées reçues. L'argument de la force physique n'est pas opérant. Par exemple, sur les semi-remorques, il faut que je retrouve son nom qui travaille et qui répare.
Aurélie ou Laïa.
Il y a Aurélie, spécialiste en pneus XXL, ou Laïa qui travaille chez Renault Trucks. L'opérant de la force, sur les semi-remorques, les 35 tonnes, la boîte de vitesse pèse 300 kilos. Donc, qu'on soit un garçon ou une fille, on ne s'en sort pas tout seul.
Le problème est le même.
Exactement.
Tout à fait.
Et donc, vous ressentez toujours du sexisme. Est-ce que les choses sont en train de changer en 3 ans d'expérience dans ce métier, Morgane ?
Oui, plutôt à travers la reconnaissance dans le milieu, par mes pairs. C'est vrai, je joue énormément sur mon physique, effectivement sur les réseaux, mais je travaille très bien derrière. Donc, on va dire que les mentalités commencent à changer.
Quel retour vous avez eu ? Il y a déjà 2 numéros des Reines de la Mécanique qui ont été diffusés.
Oui.
Je ne me trompe pas. Quel retour vous avez eu ?
Que des très bons retours. Vraiment, tout le monde me dit c'est super et on arrive vraiment à voir finalement ton quotidien en vrai par rapport à ce que justement je publie de très folklore. On va dire là, on se rend vraiment compte du travail qui est fourni.
Mathieu Bayle, est-ce qu'il y aura une saison 2 ?
Ben on espère. J'espère que
vous ne savez pas encore.
Non, on ne sait pas encore. On espère qu'il y a eu une diffusion pour le moment. Il y en a plusieurs. On va faire un bilan avec le diffuseur à la fin pour voir s'ils sont satisfaits. Mais pour le moment, c'est très bien parti.
Alors, vous ne produisez pas chez Endemol que les Reines de la Mécanique. Le magazine Télé Loisirs affirme qu'il y aura une saison 2 de la Star Academy, plus longue, 12 à 15 semaines, écrivent nos confrères. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, je ne confirme absolument rien. Aujourd'hui, je vais vous dire, toutes les équipes sont absolument motivées et focus sur la fin de cette saison incroyable qui se termine samedi avec la nomination du gagnant ou de la gagnante finale. Et pour le moment, voilà, tout le monde travaille pour ça. Et pour le moment, il n'est pas question de saison 2 encore.
Il n'est pas encore question, mais les audiences ne sont pas mauvaises du tout.
Ah, les audiences sont très bonnes et on s'en félicite.
Bon alors, ok, peut-être que Télé Loisirs avait raison. Merci beaucoup Mathieu Bayle, merci beaucoup Morgane. Je rappelle, les Reines de la Mécanique, c'est ce soir à 21h10. C'est sur RMC Découverte et c'est les autres mercredis, évidemment. On peut revoir ça en rattrapage. Merci d'avoir été avec
merci.
Nous. Vous repartez en Ferrari ?
J'aimerais bien.
Merci Philippe.
Culture Média, ça continue sur Europe 1. Après les infos de 10h, notre invité, c'est l'humoriste et comédien Gaspard Proust. Habitué au seul en scène, il délaisse le one-man show. Il joue pour la première fois dans une pièce, c'est-à-dire avec du monde. C'est la nouvelle comédie de Sébastien Thierry. Ça s'appelle Demain, la revanche. Et puis dans Les Indispensables, c'est 100% musique aujourd'hui. Gaspard Proust est passionné de musique classique. On va parler du pianiste Alexandre Tarot avec Lord Autriche. Et puis Stéphanie Loire, va nous faire découvrir plein de nouveautés. Jean-Luc Lemoine arrive dans quelques instants pour sa session de rattrapage. A tout de suite.